J'avais oublié. Dans Éphésiens, il y a un sceau qui est extrêmement important, c'est celui du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui marque un sceau. Ce n'est plus le sceau de l'amour humain. Je pense que de toute façon, l'amour humain n'est pas étranger à Dieu. Hein. C'est quelque chose que Dieu a donné. Mais le sceau que Jésus donne, que Dieu donne sur le cœur, c'est pour être rattaché à Dieu. Alors, Éphésiens, je vous lis ces versets-là. Faites bien attention, dans période de crise comme aujourd'hui, on a beaucoup de temps. On peut beaucoup perdre de temps, tout en étant chez soi et en n'ayant pas toujours quelque chose à faire. Et on peut avoir aussi des priorités et profiter de ce temps-là. Et moi, je vous dis, faites attention, lisez la parole de Dieu. Elle rechassera d'abord, elle va faire partir toutes les attaques que vous avez jour ou nuit. Ça, c'est clair, l'autorité de Dieu est là. Les craintes, les bouleversements qu'il y a eu dans le passé, dans l'enfance, etc. Dieu va mettre, va surfer là-dessus, il va mettre le calme dans le cœur, dans la vie.
Il y a Anne qui vous rejoint, ça va?
Ah oui, bonjour Anne. Anne est de Limoges, hein. Anne est de Limoges, au milieu de la France.
On est où? Il vient de commencer, Anne.
Il vient de commencer. Éphésiens, oui. Chapitre 1, verset 13. Verset 13. En lui vous aussi, donc c'est en Jésus-Christ, hein. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, Dieu, en mettant Jésus sur terre, propose de mettre un sceau dans notre cœur. Un sceau pour être relié à lui, pour être marqué et pour être attaché à Dieu. Et de l'autre côté, Dieu s'engage. Il y a aussi un sceau de son côté. Il s'engage. Et je lis le verset suivant, au verset 14. Le Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage. Ça veut dire quoi ça? Quand on va au Mont-de-Piété à Paris ou autre part dans les grandes villes, on dépose par exemple une belle armoire ou des montres en or, des montres. Pourquoi? Parce qu'on a besoin par exemple de 5000 euros pour payer des dettes. Et donc on dépose des biens qui ont de la valeur, on reçoit 5000 euros et quand on a fini de payer ses dettes et qu'on a regagné de l'argent, on arrive au Mont-de-Piété, on rend les 5000 euros et on retrouve l'armoire, on retrouve les montres. En argent, les bracelets, en or. Et ça, c'est évident. Il y a bien sûr une commission pour ce qu'on appelle le Mont-Piété, pour celui qui a mis en dépôt les meubles, l'argent, l'or, et qui a passé l'argent, prêté l'argent. Il y a une commission, évidemment. Mais il y avait un gage. Ce gage a été déposé et je viens de le chercher. Donc quand Jésus est venu, il a mis chez nous un gage. C'est la présence de l'Esprit-Saint, de Dieu, en nous. Et quand Jésus va revenir, il vient rechercher l'Esprit-Saint, et nous avec, puisque nous sommes scellés, nous sommes attachés à l'Esprit-Saint. Donc le retour de Jésus, c'est l'enlèvement de ce qu'on appelle de l'Église, l'enlèvement des croyants, parce que l'Esprit-Saint a été mis dans le cœur, nous sommes enlevés parce que l'Esprit-Saint est la propriété de Dieu, et nous sommes devenus sa propriété en même temps. Alors, pourquoi est-ce que avant qu'on ne croie en Jésus, on n'est pas scellé? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas uni? Pourquoi est-ce que si Jésus revient demain et qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, on n'est pas enlevé, on n'est pas pris auprès de Dieu? Pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas reçu l'Esprit-Saint. On n'a pas reçu le Dieu vivant dans notre cœur. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et ça, c'est fort important. Je voudrais vous faire comprendre qu'il y a des antagonismes dans notre vie. Vous avez sans doute déjà ressenti cela. Il y a plusieurs antagonismes. Il y a l'antagonisme qu'il y a eu dans le ciel quand un archange, qui après s'est fait appeler Satan, hein, Lucifer, cet archange s'est révolté. C'est un antagonisme. Il s'est révolté contre Dieu et il entraînait un tiers des anges. C'est un antagonisme qui reste toujours. Satan est jaloux de Dieu. Et les démons sont jaloux de Dieu et jaloux de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Ça, c'est un antagonisme. Le deuxième antagonisme, c'est l'antagonisme qu'il y a eu, il n'était pas là au départ, entre Adam et Ève et Dieu. Quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient les amis de Dieu, ils étaient en pleine relation avec Dieu, ils connaissaient Dieu. Mais Satan leur a proposé de prendre toute l'intelligence de Dieu, toute la lumière de Dieu pour eux, et de mépriser Dieu, de rejeter Dieu, de s'approprier ce qui était le plus beau en Dieu, l'intelligence, le savoir, la connaissance du bien et du mal, et de rejeter la sainteté, de rejeter la personne de Dieu, de rejeter la justice de Dieu. Et à cause de ça, l'homme et la femme, Adam et Ève, sont tombés dans un antagonisme, ils sont devenus ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu, parce qu'ils ont accepté la proposition de Satan de s'arroger le droit d'avoir toute l'intelligence divine et de juger ce qui est bien et ce qui est mal eux-mêmes. Ils sont devenus ennemis de Dieu et tous les enfants qui naissent, naissent en étant ennemis de Dieu. Quand Jésus est envoyé sur la terre, c'est pour que l'homme, l'enfant, le vieillard, la femme, la jeune fille, redeviennent amis de Dieu, pour que la connexion, la réconciliation soit faite. Et pour cela, il fallait que quelqu'un paye l'offense qui a été faite à Dieu. Et Jésus, sur la croix, est mort pour payer cette offense. Et en même temps, ce qui se passe, si nous nous acceptons que ça a été payé pour nous, Dieu nous accepte auprès de lui. Dieu nous donne l'autorisation de venir tout près de lui. Il nous met dans un autre état, non plus d'antagonisme, mais dans un état qu'on appelle la justice de Dieu, c'est-à-dire la communion avec Dieu et la sainteté, la participation à l'être divin. Quand nous avons reçu Jésus, nous recevons une participation à la vie divine. Et ça, c'est comme ça qu'on est scellé, parce que Jésus est venu pour nous sceller par le Saint-Esprit. Donc, les amis, le premier antagonisme, c'est Dieu et Satan. C'est pas Dieu qui l'a voulu, c'est Satan, c'est un archange et un tiers des démons, des anges qui sont devenus des démons. Ensuite, il y a un autre antagonisme, c'est l'orgueil, la prétention, la vanité de l'homme et de la femme de s'approprier l'intelligence divine et de se dire aussi malin que lui, de définir ce qui était bien et mal. Cette forme d'arrogance, d'offense, crée un fossé et nous rend ennemis de Dieu. Et c'est une grande offense faite à Dieu, qui est saint, qui est juste et qui nous aime. Donc cet antagonisme ne pouvait se résoudre que si quelqu'un venait nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous sommes liés par l'antagonisme, par la haine, par la révolte. Nous sommes liés par cet esprit de révolte. Nous sommes nés ennemis de Dieu, donc il faut quelqu'un qui nous réconcilie, il faut un ambassadeur, c'est Jésus. Quand cet ambassadeur vient sur terre où tous les hommes sont ennemis de Dieu, même s'ils ont des religions, ils sont ennemis de Dieu, parce qu'on voit bien des guerres, des injustices, des impuretés, tout ce qu'on veut. C'est pas l'étiquette, la vie qui fait le moine, comme on dit, c'est pas la religion qui fait quelqu'un de saint. Et il a fallu que l'ambassadeur de Dieu, Jésus, son fils, vienne nous réconcilier. Pour cela, il faut payer l'offense, la dette. Et deuxième chose, nous redonner la communion, nous sceller à Dieu. Nous sceller, nous rattacher à Dieu, puisque nous étions séparés. Et cela, c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Jésus, ce n'est pas la grande cathédrale, la basilique. Ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas un temple, ce n'est pas un compte en banque. Ce n'est ni un pape, ni un évêque. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est l'ambassadeur, qui est le Messie, qui vient réconcilier l'homme avec Dieu. Ça, c'est très important que vous sachiez ça. Quand on accepte Jésus, l'antagonisme que nous avions reçu d'Adam et Ève disparaît. Il est anéanti. Il est brisé. Ce péché qui est en nous est tué au moment où Jésus est mort sur la croix pour moi. Il est crucifié pour moi sur la croix. Jésus s'est fait péché, alors qu'il n'était pas un pécheur. Il a pris mon péché, il s'est fait péché pour moi, et il a été accusé à ma place, et il a payé pour moi, il est ressuscité, il est là pour vivre avec moi et m'amener au Père. Donc l'antagonisme de l'homme et de Dieu ne se résout que si on accepte l'ambassadeur de Dieu. Ok ? Continuer une guerre avec Dieu, c'est ce qu'on appelle aller dans les tourments éternels. Déjà sur terre, évidemment, mais c'est se condamner soi-même à aller dans des tourments éternels. J'ai eu la grande grâce, moi, à 4 ans, quand j'étais malade, sur mon petit lit, en fièvre typhoïde, pendant 3 semaines, de voir du feu et de voir les tourments que c'était. Et puis, 65 ans après, j'ai vu mon père, qui, 2 heures avant sa mort, ouvre les yeux. Quand je suis arrivé tout près de lui, je circulais du côté de Montmédy, je faisais des visites, et le Seigneur me disait, rentre, ton père va mourir, il faut que tu sois là. Je suis rentré, quand je lui ai dit, papa, je suis là, il a ouvert les yeux, il était horrifié, il voyait, il regardait le plafond, et je lui ai dit, j'ai pensé à ce que j'avais vu quand j'avais 4 ans, je lui ai dit, papa, tu vois l'enfer. Il m'a dit oui. Alors j'ai pris le psaume 139 pour lui montrer que Dieu est grand et qu'il peut se sentir aimé. Il faut qu'il accepte l'amour de Dieu. Il faut qu'il accepte de se reconnaître pécheur et d'être sauvé par Jésus. C'est ce que mon papa, mon père a fait. À la dernière minute. Mais pourquoi attendre la dernière minute si on peut le faire à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 10 ans, à 6 ans? Pourquoi attendre? Pourquoi se faire inutilement du mal à soi-même? Et se priver de la vie spirituelle, se priver du bonheur d'être avec Dieu. Donc au plus profond de nous, nous avons un grand besoin du Messie, du Sauveur. Tout le monde, dans la crise actuelle, avec le coronavirus et peut-être d'autres crises qui vont s'enchaîner, parce que c'est un peu l'accomplissement des prophéties pour le moment, ce qui se passe des dernières prophéties avant le retour de Jésus, c'est un moment d'épreuve pour que les hommes se repentent, c'est-à-dire retournent vers Dieu. Ce n'est pas Dieu qui déteste les hommes, c'est les hommes qui détestent Dieu et qui se mettent dans une situation tellement difficile. Et il faut que l'homme reconnaisse qu'il a besoin de Dieu et qu'il se tourne vers son ambassadeur, vers Jésus. Jésus n'est pas une religion, c'est le Messie, c'est le Sauveur envoyé par Dieu. Ce n'est pas une religion. N'est-ce pas? C'est pas un système, c'est pas une institution. Il faut bien se dire, c'est une personne vivante, ressuscitée aujourd'hui. Si vous ne le croyez pas encore, mettez-vous à genoux dans votre chambre et confessez à Dieu. Seigneur Jésus, je ne te connais pas. Seigneur Jésus, je voudrais bien que tu viennes dans ma vie. Fais-moi des signes. Je suis prêt à te recevoir. Il faut avoir des choses, des paroles simples, de cette manière, pour que toute la vie bascule dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle. Pas dans la religion. Ça n'a rien à voir. Alors, au plus profond de nous-mêmes, l'antagonisme nous a tellement fait souffrir depuis des milliers d'années. Cet antagonisme entre Dieu et l'homme. Que nous avons encore quelques temps, quelques années, ou quelques mois, ou quelques dizaines d'années, je ne sais pas. Il n'y a pas de date pour moi, mais avant le retour de Jésus, nous avons l'occasion de retourner vers Jésus et de là vers le Père. Alors, si je souffre, si je suis abruti par la vie, si je ne me laisse faire par personne, je ne veux rien recevoir de personne, je reste dans mes obstinations, je veux rester ce que je suis, je cautionne mon échec et ma souffrance moi-même. Je pense qu'il n'y a pas plus maso que ça. Hein ? Je ne change pas, je recule, je m'entête. Eh bien, je suis tombé un jour, j'avais 19 ans et je cherchais Dieu. J'étais en passe soit de me suicider, soit de me donner à Dieu. Et je suis tombé sur une poésie d'un poète russe, Lermontov, je ne sais pas s'il est chrétien, peu importe. Et c'était mis ceci, ça a touché mon cœur à fond. Et toi qui cherches la paix dans la révolte, alors que tu n'y trouveras que la tempête. Toi qui cherches la paix dans la révolte, tu n'y trouveras que la tempête. Je vous garantis que ce jour-là, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Il faut que je change. Et il faut que je me remette en question ce fichu caractère de révolte contre tout. Il faut que je le laisse de côté. Et pour se dégager de ces ronces et de ces épines du cœur, eh bien, il faut une détermination. Il faut se mettre à genoux. Il faut le dire à Jésus. C'est lui qui a porté mes ronces et mes épines sur sa tête. C'est lui qui peut changer mon cœur et me libérer. Donc Jésus est là pour supprimer cet antagonisme reçu d'Adam et Ève, qu'on appelle le péché. Ok ? C'est ça que je voudrais dire. Quand l'homme et la femme au paradis terrestre sont sortis d'une relation d'amour entre Dieu et eux, ils sont sortis du cadre de l'obéissance amoureuse. Ce n'est pas une obéissance à coup de tric. C'était une obéissance amoureuse dans la plénitude, dans la grâce. Il n'y avait rien de plus grand. Ils ne connaissaient pas la mort. Ils connaissaient la joie et la sainteté. Mais ils ne devaient pas définir le bien et le mal eux-mêmes. C'est simplement cela que Dieu avait interdit. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient en face d'eux l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le Christ. C'est l'intelligence même. C'est la lumière même pour ma vie. C'est lui qui a l'art de vivre comme Dieu le veut. Et quand Adam et Ève avaient en face d'eux l'arbre de vie, le Christ, ils avaient le modèle, ils avaient l'inspiration, ils avaient la source de la vie divine. Ils avaient tous les éléments pour réussir une bonne relation avec Dieu. Alors Adam et Ève se sont entretenus entre eux, longtemps ou pas, on n'en sait rien, le texte ne le dit pas dans la Bible, mais ils sont entrés dans un processus de rébellion, et puis après, eh bien, tout s'est dégradé. Ils ont commencé à se critiquer, à s'accuser les uns les autres.
L'un l'autre.
Et pratiquement, au premier couple, deux fils. Un qui tue le frère. Et le frère ose dire, Caïn ose dire à Dieu, en face à Dieu, suis-je le gardien de mon frère ? Eh bien, aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe sur la terre, avec les guerres, les ventes d'armes, la pollution. C'est évident, nous sommes restés dans l'esprit de Caïn, suis-je le gardien de mon frère ? Pourquoi ce monde est détraqué ? Parce que personne ne veut être le gardien et l'ami de son frère, de toutes les nations, de tout, être frère et sœur de tous les autres humains, et ne jamais porter atteinte à son prochain. Non.
Si, les chrétiens, ils
peuvent faire ça. L'enfant de Dieu qui accepte Jésus, lui ne porte plus atteinte aux autres, s'il accepte tous les jours que le Saint-Esprit le dirige, l'Esprit divin. Et c'est cela la nouveauté de vie. Il vit comme Dieu lui demande, pour plaire à Dieu et aussi pour faire du bien aux autres et le moins possible de mal. Le moins possible, parce que ce n'est pas évident, il faut se corriger tous les jours. Mais en tout cas, l'enfant de Dieu a arrêté le processus de rébellion. Il a accepté un nouveau processus, celui de la sanctification, de l'obéissance au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Ça, c'est fort important que nous comprenions ça. L'antagonisme cesse entre Dieu et l'homme à partir du moment où on accepte Jésus son Fils. Hein? C'est un cadeau divin qui nous est fait. Quand on va vers Jésus et qu'on l'accepte, l'esprit et la liberté d'esprit, l'esprit est guéri, parce qu'avant il était obscurci, il était entraîné malgré lui par des passions, il était esclave de l'orgueil et des passions. L'esprit devient libre, et cette liberté d'esprit me fait reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal, mais derrière Jésus, en écoutant ses conseils, en voyant sa parole, et en laissant faire l'Esprit Saint dans le cœur. Donc, quand on se détache de Dieu, quand on a choisi Jésus, parfois on se détache de Dieu, on veut devenir autonome, mais ça, c'est nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous ne sommes pas Dieu. Nous retombons, évidemment. Mais l'homme ne sait pas toujours ce qu'il veut. L'homme ne sait pas, même celui qui a accepté Jésus, celui qui est devenu enfant de Dieu, il ne sait pas toujours ce qui est le meilleur pour lui. La grande richesse d'un chrétien, c'est d'être humble et de reconnaître devant Jésus qu'il s'est trompé de chemin et de revenir vers lui. L'esprit de repentance doit continuer tout le temps. C'est une école, c'est un apprentissage continuel, la vie chrétienne. On n'est jamais arrivé. Et on ne peut pas s'enorgueillir, on ne peut pas être sage à ses propres yeux, on ne peut pas avoir une trop haute estime de soi-même. Donc, c'est clair que le principe de la vanité est disparu. Le principe de l'humilité et de la remise en question de la repentance honnête et droite est acquis pour toujours. Donc, c'est ça la vraie liberté. c'est l'humilité. L'humilité à la suite de Jésus. Quand Jésus dit « Viens et suis-moi », c'est dans l'humilité, évidemment. Jésus est lui-même doux et humble de cœur et humble. C'est notre modèle. Jésus n'a jamais été un orgueilleux. Il n'a jamais mobilisé des banques et des armées. C'est seulement Constantin, au IVe siècle, c'est seulement l'Empire romain qui s'est accaparé la foi chrétienne pour entraîner les hommes dans un faux christianisme qui dure encore aujourd'hui. Alors, le chrétien qui est content de Jésus et qui se repose sur lui, s'il s'adresse à Dieu, s'il s'adresse à Jésus, qui se confie à lui, il répond à un verset qui est dans Timothée, c'est « Le contentement et la piété sont une source de grand gain. » Le contentement et la piété, donc la relation avec Dieu, voulue, désirée. Alors je reviens à ce que j'ai dit au départ, dans le Cantique des Cantiques, quand il est dit ceci, que il y a un sceau sur mon cœur. Hein? Vous rappelez que j'ai lu cela tout à l'heure. Bon, Anne n'était pas encore là, mais dans les Cantiques des Cantiques, il y a à la fin, au chapitre 8, je pense, il y a un verset extrêmement fort qui est pour moi le signe de quelqu'un qui a compris comment Dieu fait dans la vie quand on a la foi. Hein? Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Hein? » Donc, j'appartiens à mon Dieu. Je lui appartiens dans l'amour, hein? Pas dans l'obligation et la peur. Hein? Car l'amour est fort comme la mort. C'est ça qui doit m'habiter, un amour très fort pour Dieu, comme Jésus l'a, et il m'apprend à avoir cet amour-là. Parce que je l'avais perdu à cause du péché d'Adam et de ma vanité. L'amour est fort comme l'amour. La jalousie est inflexible comme le séjour de la mort. Je suis jaloux de Dieu, c'est-à-dire je ne vais pas trahir Dieu, je ne vais pas trahir l'Évangile. J'aurai des tentations, il y aura des choses mauvaises qui vont passer à la télévision, il y aura des occasions d'être malhonnête en affaires, je ne vais pas le faire. Parce que je suis jaloux, je garde mon amour, le vrai. Je suis jaloux, je veux garder. Hein? Et ça c'est, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Donc en moi, un attachement à Dieu fort, c'est comme une forme de jalousie qui me fait rejeter les mauvaises choses que Satan, ou le péché qui revient parfois dans mon esprit, pourrait me proposer. Ils veulent me proposer. Alors, c'est comme une flamme, c'est comme une ardeur de feu, ça me purifie. Une autre image, qui est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. » Donc, qu'il passe un océan d'eau, un tsunami, sur un feu tel que l'amour que j'ai dans mon cœur, même si je meurs, cet amour reste. Qu'on me crucifie, qu'on me persécute, qu'on m'insulte, cet amour en moi reste. Que toutes les eaux passent sur moi, toutes les calamités, les difficultés, les tribulations m'arrivent, cet amour reste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, beaucoup de pays asiatiques et arabes, il y a des chrétiens qui perdent la vie, ils sont scellés par l'amour divin. Nous, ici en Europe, nous sommes distraits par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Mais cette période de coronavirus nous permet de réfléchir. Toutes ces choses que nous connaissons, nous pourrions les perdre vite si l'économie s'écroule. Et il faudrait être humble. Et il faudrait savoir que toutes ces grandes eaux, est-ce qu'elles vont éteindre en moi l'amour que j'ai pour Dieu ? Il faut se poser la question. Est-ce que je vais tellement être attaché au Seigneur que quoi qu'il arrive, je lui reste fidèle et droit ? Et je compte sur lui. C'est lui qui me fera passer à travers les eaux. C'est lui qui me fera vivre, même s'il y a des tribulations et des difficultés. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Donc, j'ai parlé de l'antagonisme. Évidemment, il faut faire attention. Il est au fond de nous. même quand on aime Jésus, qu'on aime l'Évangile, qu'on a de l'amour pour la vérité, il est au fond de nous. C'est une mauvaise bête. C'est quelque chose qui est au fond de nous, qui est tapis, qui revient. Il faut faire attention. Le péché est un ennemi redoutable. Cet antagonisme, il faut le détester et le mettre comme ennemi numéro un. Alors, si vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas voulu être enfant de Dieu, qui ne cherche pas la vérité, qui ne cherche pas à se réconcilier avec Dieu, ça arrive, nous rencontrons des personnes comme ça. C'est pas pour ça que dans 2 ans, dans 2 jours, dans 20 ans, il ne va pas changer. J'ai vu ça dans ma vie, des gens chez qui j'ai fait des études bibliques il y a 15-20 ans, et qui me rappellent, et puis je continue avec eux toutes les semaines. Et là, réellement, il y a une vie divine qui s'est installée dans la maison. Et l'œuvre de Satan s'est arrêtée. L'œuvre du péché s'est arrêtée. Donc, je pense que même si vous rencontrez quelqu'un qui est insurgé contre Dieu, il en souffre lui-même. L'insurgé contre Dieu, c'est quelqu'un qui est en révolte. Il a la fureur contre Dieu. Il s'auto-proclame maître de sa vie. Il veut rester dans l'obstination de sa propre liberté. Donc il est attaché à l'image de soi. Donc il est dans le péché d'Adam et Ève, tout simplement. Il s'oppose à l'image de Christ, à l'ambassadeur qui vient vers lui. Quand vous lui parlez, vous lui donnez un évangile, il n'en veut pas. Combien de fois, moi, j'ai donné une Bible, un Nouveau Testament, on me le renvoie par la poste, ou des traités. Certaines personnes avaient eu des traités, un évangile dans la boîte aux lettres, on me les remet dans ma boîte aux lettres. Et c'est arrivé, à un moment donné, sur un ravel, c'est-à-dire un parcours à vélo dans la forêt, au moment où j'avais très mal aux deux genoux, je devais faire du vélo, 50 mètres à pied, 50 mètres à vélo, pendant des semaines et des semaines. Avant que tout se rétablisse, je n'ai pas été opéré des genoux à cette époque-là, il y a 15 ans, grâce au bon conseil d'un médecin de Strasbourg. Eh bien, pratiquement, comme je souffrais beaucoup, je me dis, il faudrait bien un autre sens à ma présence là, parce que je pleurais tellement j'avais mal. Je pleurais, je souffrais, hein, de faire ce que le médecin m'avait dit. Il m'avait dit, si vous avez mal, vous guérirez. Ça, c'est capital. La guérison n'est pas chose facile. C'est la même chose quand on devient chrétien. La guérison de toutes les vilaines manies et de toutes les mauvaises pensées n'est pas facile. Parfois, on souffre. Alors, ce qui s'est passé, le deuxième point que je voulais dire, c'est lors de ces balades, j'avais plein de petits Nouveaux Testaments et le long de ce chemin bétonné qui dure des kilomètres, il y a de temps en temps un abri avec un banc. Et figurez-vous que c'est moi qui les avais construits. Le patron pour qui je travaillais m'avait mis là, dans la forêt, pour faire ces abris-là. Chose bizarre.
20 ans avant.
Chose bizarre, me revoilà là, et comme j'étais fatigué, j'avais mal, je m'asseyais à chaque abri que j'avais construit moi-même, pour les autres, sous les ordres de mon patron. Parce que le chef d'équipe me déchargeait avec le matériel, il repartait, il venait me rechercher au soir, en pleine forêt. Alors, imaginez, je déposais un Nouveau Testament sur la table. Et puis, un de mes cousins, un futé, qui est révolté contre Dieu, c'est un insurgé, il l'est toujours, mais pourtant, on s'aime bien. Et je pense qu'un jour, il va lâcher. Hein? Et pratiquement, il s'était caché, et il me dit, tu sais, quand les gens passent là, eh bien, le Nouveau Testament, il est sur la table, il regarde à gauche, à droite, et tout ça, et puis ils ne le prennent pas. Alors, j'ai suivi son conseil, j'ai mis le Nouveau Testament sur le banc. Donc, ils s'asseyaient, les personnes s'asseyaient à vélo, elles passaient à pied ou à vélo, elles s'asseyaient, puis elles trouvaient le Nouveau Testament là, sur le banc, et mon cousin, futé, il avait un petit abri, une petite propriété dans la forêt, futé, il observait les choses. Et il me dit, tu sais quoi, il continue à regarder à droite et gauche s'il n'y a personne, et puis tout d'un coup, l'air de rien, il met la main dessus, il met dans la poche. Donc, il y a beaucoup de gens, J'ai distribué 250 Nouveaux Testaments comme ça, les amis. Donc comptez que c'était, au moins j'ai fait 80 à 90 jours, 90 jours de souffrance à vélo, mais j'étais content. J'étais content, parce que j'avais compris comment il fallait distribuer le Nouveau Testament aux insurgés. Les insurgés ne veulent pas être au nom de recevoir la vérité. Les insurgés ne veulent pas être au nom d'être vus par quelqu'un et de montrer qu'ils s'intéressent à Dieu et à Jésus. Les insurgés ont peur du regard des autres. Ils ne sont pas si forts que ça. Ils ont une image d'eux-mêmes et ils pensent que tout le monde est contre Dieu et contre Jésus, donc je ne peux pas le prendre, sauf si c'est caché et que personne ne me voit. Et donc, ça m'a un peu fait comprendre, chers amis, que l'insurgé est faible. C'est un faible. Le révolté, c'est un faible. Lorsqu'on ne se révolte plus contre Dieu, qu'on ne s'insurge plus contre Dieu, on n'écoute plus notre faiblesse. On l'a reconnue et on s'approche de Dieu, comme un enfant. Et on reçoit de Dieu. Mais celui qui est faible et qui le refuse, il devient encore plus faible. Il reste dans sa misère, dans son propre échec. Il persiste et signe dans une attitude de mort spirituelle, de séparation d'avec Dieu. Eh bien, ça c'est clairement, Dieu a dit ceci dans Philippiens chapitre 2, verset 10, « Tout genou fléchira. » Les amis, Jésus l'a dit, « Tout genou fléchira. » C'est dans Ésaïe, évidemment, au chapitre 45, verset 23, et c'est dans Philippiens, chapitre 2, verset 10. « Tout genou fléchira », ça veut dire, faut-il encore un autre coronavirus? Faut-il autre chose après, comme épreuve? Pour qu'on reconnaisse notre faiblesse? Qu'on refuse, qu'on rejette notre forme d'insurrection, de révolte égocentrique? Je pense que Dieu a des méthodes qui peuvent être assez fortes pour nous faire changer. Vous savez, à table, quand un enfant, on veut le gâter, on prépare des beaux repas et puis il balaye d'un coup de main, il ne veut pas manger. Et vous habituez à lui refaire un repas qu'il aime bien. Et chaque fois, il va faire toute sa vie comme ça. Je veux ci, je veux ça. Vous aurez travaillé des heures pour rien. Ou autrement, vous avez une autre méthode. Tu ne le veux pas, mais tu n'as pas mangé. On te le remettra au soir. Et au soir, tu le mangeras. Il va réfléchir. Si vous cédez, il est foutu. C'est un enfant roi, c'est un tyran. Et vous, votre vie sera foutue aussi. Parce que le tyran vous tyrannisera. Alors faites attention. Dieu ne supporte pas qu'on le tyrannise. Dieu ne supporte pas qu'on le tyrannise. C'est fini. Je pense que le temps de la révolte contre Dieu se termine. Il est aujourd'hui temps de se repentir pour beaucoup de gens. Et je pense que les épreuves présentes et même à venir vont agir pour montrer qu'il faut refuser la révolte. Il faut s'abaisser devant Dieu. Celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus l'a dit, mais celui qui s'élève sera abaissé. Hein? Alors, le troisième antagonisme dont je voudrais vous parler, hein, se situe dans notre nature humaine, entre le régime de la foi, hein, nous avons la grâce, nous avons reçu Jésus dans notre cœur, nous l'aimons, mais, il y a un antagonisme avec la religion, avec les mérites. J'ai en moi quand même quelque chose. Je voudrais bien arriver à faire quelque chose par moi-même et prouver à Dieu. Je vous donne un exemple qui me concerne. Souvent, j'ai voulu jeûner pour telle ou telle personne. Puis j'ai attrapé des crampes ou ma femme avait fait des trop bons repas et puis il arrivait quelqu'un et je ne voulais pas avoir l'air trop idiot. Je me mettais à table avec tout le monde. Mais pour finir, c'était moi qui avais été content de remanger. Hein? Et quand je faisais le total, je me mettais dans la prière, je dis « Seigneur, j'ai échoué. Seigneur, j'étais lamentable. Je voulais jeûner et j'ai échoué. J'avais prévu de prier une heure ou deux, de lire ma Bible, et puis je ne l'ai pas fait. J'ai échoué. Combien de fois j'ai échoué ? Jusqu'au jour où, dans la prière, le Seigneur, et dans les textes bibliques, m'a dit « Mais ma grâce suffit. J'ai donné ma vie à la croix pour toi. J'étais sauvé par mon sang. Tu ne peux pas te sauver par tes mérites, parce que tu veux être parfait par toi-même. Tu veux me prouver quelque chose ? Tu n'arriveras jamais à rien prouver par toi-même. Je suis saint, je suis parfait. Laisse-toi faire. J'ai déjà décidé de te sanctifier. J'ai déjà décidé de changer ta vie, de l'améliorer, de la mener jusqu'au terme et de te rendre semblable à moi. Alors ne sois plus crispé sur l'idée que tu dois mériter quelque chose, que tu dois faire quelque chose pour me prouver quelque chose. Vous savez très bien que dans 2e aux Corinthiens, Jésus dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Et j'allais chez une petite dame, une ancienne fermière, Marguerite Heusch, à Savelborn, au nord du Luxembourg. Elle est décédée. C'est vraiment une bonne copine. Il y avait des stocks de linge là que j'envoyais en Russie, en Turquie, enfin peu importe. Pas en Turquie, en Kazakhstan. Et pratiquement, j'arrivais là-bas, elle était à la fête. Parfois j'ai pris Marie-Hélène ou un autre, parfois j'y allais seul. Avec la remorque complètement chargée, la voiture remplie, je mangeais avec elle. Et cette femme avait un cadre, Gnade is genug, parce qu'elle parlait l'allemand, le français et le luxembourgeois. Elle était suisse, d'origine. Et la grâce lui suffisait. Je vais vous donner un exemple de sa vie. Elle est morte à 93 ans, 93 ans. J'étais très triste parce que c'était vraiment une bonne copine. Je l'adorais. C'était ma copine, comme j'en ai d'autres de tous les âges, hein, vous aussi. Mais pratiquement, j'avais bon tous les deux mois d'aller chercher les linges et de passer deux heures avec elle. Alors elle découpait dans les journaux, dans les revues, des fleurs, des petits enfants, des petits animaux. Elle prenait l'album, elle collait tout ça. Et elle s'émerveillait en hiver de tout ce qu'elle avait découpé. Mais en été, elle était dehors, elle avait semé des fleurs, elle avait des fleurs partout, elle s'émerveillait de ce que Dieu lui donnait. C'était comme un grand enfant. Pourtant, c'était une femme extrêmement intelligente et qui avait vécu durement dans l'agriculture. Elle était veuve. Son brave Émile était déjà tout près du Seigneur. Alors, je vous explique. Elle avait 18 ans. Elle faisait partie d'une famille où il y avait 8 filles. Elle habitait en Suisse. Et le papa et un frère, il y avait un frère ou deux, ils avaient chacun un chariot et on avait chargé le foin à la fourche. Et puis le foin était tassé, on met une corde et elle était au-dessus d'un des chariots. Ses sœurs étaient sur des autres chariots. Elle était couchée sur le tas de foin, elle regardait le ciel. Et elle disait merci à Dieu pour la belle journée, pour le soleil, pour le travail. Elle merciait à Dieu pour tout. Et son cœur était rayonnant quand elle arrivait à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont décroché les chevaux, ils ont été à table, la maman avait préparé un repas, et il y avait un pasteur luxembourgeois du nord du Luxembourg avec un jeune homme, Émile Heusch, 20 ans. Et le pasteur dit à la famille de Suisse, devant le papa et la maman et devant toutes les filles et les deux garçons, Dieu nous a conduits ici pour trouver une fille à Émile. Pensez-vous que Dieu a donné une de vos jeunes filles à Émile pour être son épouse toute sa vie? Chers amis, c'était des chrétiens évangéliques qui priaient tous les jours, qui chantaient, qui louaient Dieu, qui lisaient la Bible, qui était de longue tradition, depuis plusieurs siècles, qu'on appelle les Ménonites. C'est un prêtre catholique qui était devenu évangélique, qui avait fondé la religion Ménonite, c'est-à-dire évangélique, purement évangélique. Et c'était en général tous des paysans, prospères et courageux. Eh bien, à table, personne ne répondait, évidemment. Le pasteur avait posé la question, le jeune homme était là. Alors, Marguerite lève sa main et elle dit « C'est moi ». Et Marguerite, un mois après être mariée à Émile, elle partait au nord du Luxembourg, elle quittait la Suisse. Vous ne pensez pas étrange que la femme d'Isaac, Rebecca, a fait la même chose? Quand le serviteur de Dieu est venu chercher un mari à Isaac, ouais. Eh bien voilà, c'était ma copine, parce qu'elle était entière. Elle prenait son Émile, qui avait une mauvaise santé, dans la voiture, et retournait en Suisse tous les 2 mois, longtemps avant la mort bien sûr d'Émile, et elle roulait sur l'autoroute en Belgique et en France, et j'ai dit, c'est une femme, c'est de la dynamite, hein. Alors je disais, Marguerite, à quelle vitesse roules-tu sur l'autoroute? Ben, à 160. Marguerite, tu ne peux plus faire ça. Respecte les autorités. Respecte les autorités et le code de la route, s'il te plaît. Elle me regarde et puis dit, d'accord. La chère Marguerite. Et ce que je veux vous dire, j'ai pris cet exemple-là pour quoi? Parce que le troisième antagonisme, même qu'on a accepté Jésus, même qu'on l'aime, même qu'on croit dans la grâce, il y a un antagonisme qui revient toujours. C'est la chair. C'est le combat entre la chair et l'esprit. Et la chair, dans la Bible, dans l'Évangile, dans les Épîtres, ça veut dire l'homme, l'humain. Il y a quelque chose en nous qui est toujours malhonnête avec Dieu. Et quelque part, il faut se reposer sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Et dans Galates, au chapitre 5, il est mis clairement que les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit-Saint sont opposés, contraires. Regardez dans Galates, au chapitre 5, vous le trouverez. Ils sont opposés. Donc, un chrétien qui a de l'expérience dans sa vie chrétienne et dans sa vie humaine, ça va de pair, il sait qu'il y a un antagonisme qui restera toujours et il doit gagner. C'est un duel, il doit gagner. C'est un antagonisme qui nous révèle les limites de notre engagement. On ne peut pas promettre d'être parfait à Dieu. On doit essayer d'être parfait et on doit essayer de l'aimer et on doit recourir à sa grâce. Nous sommes des mendiants de l'amour de Dieu. Et cela, chers amis, c'est extrêmement important. Laissons faire la grâce dans notre vie. Gnade is genug. La grâce nous suffit. Et bien sûr, il faut être responsable de notre vie chrétienne. Mais pas être dans le piège des mérites. Pas dans le piège, je vais prouver quelque chose à Dieu. Je vais prouver quelque chose aux autres chrétiens. Parce qu'ils me regardent. Je vais faire des promesses, je vais faire des serments. Jésus l'a dit, ne faites aucun serment, vous vous casserez la figure. J'en ai l'expérience bien souvent. Alors aujourd'hui, j'arrête le message maintenant. Je vous dis, la vie chrétienne, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure avec le Seigneur. Vous êtes toujours gagnant si vous êtes honnête et droit avec le Seigneur. C'est une belle aventure. Et nous ne sommes pas des martiens, nous ne sommes pas dénaturés, nous sommes toujours Jamila, nous sommes toujours Jean-Christophe, nous sommes toujours Marguerite Heuch, nous sommes toujours Jean Bayeux ou Marie-Hélène Laurent, nous sommes toujours nous, mais au fond de nous, tout est changé, tout est en voie de transformation, tout est en voie comme un accouchement. Alors je prends Romain, et je vais terminer par ce message-là, dans Romains, au chapitre 5. Ah, c'est chapitre 8, excusez-moi. Romains, chapitre 8. Ainsi donc, frères et sœurs, verset 12, nous ne sommes point redevables par la chair, donc nous ne devons rien à l'humain, en nous-mêmes comme aux autres. Nous ne sommes point redevables à l'humain, pour vivre selon l'humain. Si vous vivez selon l'humain, vous mourrez, c'est-à-dire vous retomberez dans le péché d'Adam et Ève, vous serez séparés de Dieu. Vous n'avez pas la vie spirituelle et divine en vous. Mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir les actions du corps, donc de la nature humaine, vous vivrez. Donc c'est pour ça que je vous dis que le troisième antagonisme, il est dans la vie chrétienne. Et il faut l'admettre. Il faut recourir à la grâce pour avoir la victoire. Et pour que le vieil homme en nous, la vieille femme en nous, meure, ne remonte pas au-dessus de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regardez, nous avons un statut incroyable. Nous sommes déclarés filles et fils de Dieu pour toujours.
Dans le prologue de Jean.
Vous n'avez point reçu un esprit d'esclave pour être encore dans la crainte. Donc, vous voyez, quand on échoue, quand on fait des promesses, on fait des plans de bataille pour devenir meilleur, eh bien, on se casse le nez et puis on est dans la crainte. Parfois, on est dans la déception, dans l'affliction. Ben oui, parce qu'on a compté trop sur soi-même encore. Ou sur, parfois sur quelqu'un d'autre. Mais vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclavage, pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa, Père ». L'esprit d'adoption, ça veut dire, eh bien, j'ai dû signer parfois des papiers pour des couples adopter des enfants, me porter garant. Puis les enfants sont mignons, là, dans le berceau et tout, hein, c'est mignon. Puis l'adolescence arrive, ça y est, des tourments. À 18, 19 ans, ça tourne mal. Deux fois sur trois. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'enfant a été adopté, mais l'enfant n'a pas l'esprit d'adoption. Quand est-ce que ça va bien? Entre les parents adoptifs et l'enfant adopté. Quand l'enfant a un esprit d'amour pour ses parents adoptifs. Un esprit d'amour. Il a un sceau en lui. Il est scellé. C'est un amour plus fort que l'eau ne submergera pas. C'est un esprit de jalousie. Il ne va plus quitter ses parents adoptifs. Il va toujours les aimer. Et c'est cela, l'esprit d'adoption. Rappelez-vous ce que nous avons lu au chapitre 8 des Cantiques des Cantiques. L'esprit d'adoption est un esprit de scellement, d'adhésion totale et éternelle. L'esprit lui-même rend témoignage à notre intelligence que nous sommes enfants de Dieu. Donc, chaque fois que nous avançons, eh bien, cet esprit saint, cet esprit vivant, Dieu lui-même, nous montre dans notre cœur que nous sommes devenus et que nous devenons encore mieux, nous devenons enfants de Dieu. Nous progressons, nous sommes dans le chemin des enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être dans la gloire avec lui, glorifiés par lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alors, chers amis, le chemin pour être chrétien n'est pas simple, hein? C'est évident. Souvent, on n'est pas tranquille. On a des retours de manivelle. On a des oppositions, etc. Parfois des attaques de Satan aussi. Hein? Ou des critiques des autres. Eh bien, ces souffrances-là ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. C'est rien du tout. C'est de la balayure. Nous aurons beaucoup plus. Et ceux qui nous ont attaqués, ceux qui nous roulent dans la farine, n'auront rien du tout. Nous sommes les gagnants. Même si nous avons l'air d'être des perdants et les stupides. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il y a des hommes, il y a des femmes sur terre qui attendent de voir des enfants de Dieu heureux qui avancent dans la foi malgré les difficultés. La création attend. Donc aujourd'hui, dans la période du coronavirus et peut-être d'autres choses qui arriveront, il faut savoir qu'un chrétien est sous les regards des autres. Un vrai enfant de Dieu. Je ne dis pas un chrétien à la manière des habitudes depuis plusieurs siècles. Un chrétien dans le cœur. Pas un chrétien avec une basilique, une cathédrale ou un... Hein? Des crucifix, des croix, des médailles, c'est pas ça. C'est le Christ en nous, hein? C'est ça le chrétien, le Christ en nous. Eh bien, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'homme a tellement mal sur la terre, il souffre tellement, même l'insurgé, même le révolté, qu'il essaye, il regarde. Mais il ne veut pas montrer qu'il regarde. Ne vous tracassez pas pour ça. Il vous regarde. Pensez à l'histoire que je vous ai racontée avec le Nouveau Testament caché sur le banc dans la forêt. S'il est sur la table, je repassais le lendemain, il était encore là. S'il était sur le banc, il était pris. Parce que le monde a peur du monde. Le monde a peur du monde. Les hommes ont peur des hommes. Mais nous n'avons pas peur des hommes. Parce que nous savons que les hommes ont besoin d'être adoptés par Dieu et de recevoir l'esprit d'adoption. Nous savons qu'ils ont un chemin de bonheur devant eux. Nous ne pouvons pas désespérer. Ils regardent, ils en ont besoin. Et nous serons des humbles serviteurs, des témoins serviteurs, humbles, fidèles et justes. Et c'est dans cela que les autres ont besoin de regarder. Ils veulent voir la révélation des enfants de Dieu. Ils veulent voir en vous ce qui s'y passe. Et peut-être qu'un jour, même que vous ne le savez pas, vous serez mort, ils seront enfants de Dieu. C'est en cela que le monde accouche. Je vous lis les derniers versets, et puis j'arrête. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, donc Adam et Ève, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Le monde a l'espérance de se sortir de la glu dans laquelle il est. Le monde a l'espérance d'autre chose de meilleur. Mais il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment, pas où passer. Il ne connaît pas la petite porte, il ne connaît pas le petit chemin. Il connaît la grande avenue et où tout le monde se perd. Alors, nous avons une mission incroyable. Verset 22, « Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Donc le monde, c'est comme une femme qui est en train d'accoucher et que l'enfant n'arrive pas à sortir. La nouvelle vie n'arrive pas à sortir. Il faut un bon gynécologue. Jésus de Nazareth. Allez, que Dieu vous bénisse.